Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et en cette période de rentrée scolaire, Franck Ferrand nous ramène aux origines de l'école. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier Magnan connaît bien l'histoire des instituteurs, alors je lui ai proposé d'être des nôtres cet après-midi pour évoquer l'école, essentiellement l'école élémentaire. Et à titre de préambule, je vous propose de découvrir à quoi elle ressemblait, cette école, avant la Révolution française.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Nicolas qui souhaite connaître les origines du système de notation à l'école.
Voilà qui bientôt appartiendra définitivement à l'histoire, si j'ai bien compris. Bon, moi, de mon côté, je vais essayer d'obtenir au moins un 9 sur 10. Comme disait une de mes arrière-grand-mères, oh, mais ça vaut 10.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes au début du mois de novembre, je dis bien novembre 1721, dans un gros village, un village qui est un petit peu isolé, à une trentaine de kilomètres de Bourges. Nous sommes en plein Berry, en tout cas dans les confins du Berry, chez la famille Petit. Cette famille Petit, nous l'avons imaginée, pour tout vous dire. C'est une famille type de cultivateurs, des gens relativement aisés. Alors, on est donc en novembre, la nuit est encore bien présente en ce petit matin, puisque le soleil se lève tard en novembre, et les deux enfants, qui ont 8 et 7 ans, sont déjà là, qui cavalent dans les rues étroites de la bourgade. Ils le savent, ils ont trop traîné dans la basse-cour de la ferme familiale, et maintenant, eh bien voilà, ils sont en retard. L'objectif de leur course, ce qui les rend ainsi haletants, c'est une vieille masure proche de l'église. C'est là que chaque jour, de 7h, vous rendez compte, de 7h à 11h et de midi à 16h, et ça va durer comme ça jusqu'au début du printemps, au-delà de Pâques en tout cas, ils vont devoir se rendre à l'école. Seules exceptions, les dimanches, les fêtes liturgiques, qui sont quand même très nombreuses à cette époque, en 1721, et puis les jours aussi nombreux où leur aide est tout à fait requise à la ferme. Ces jours-là, on sèche l'école, et il n'y a même pas besoin de mots d'excuse. Alors, il faut vous dire que leur père était un petit peu réticent. Il aurait voulu garder ses deux aînés auprès de lui, mais il a une femme, Monsieur Petit, et la pieuse, l'énergique Madame Petit, sur ce chapitre, a eu le dernier mot. « Nos enfants ne seront ni mauvais chrétiens, ni des ignorants », dit-elle. Vous avez vu dans quel ordre elle dit ça. « Ils iront à l'école ». Et évidemment, le curé du village n'a fait qu'approuver, parce que quand les petits Baptiste et Thomas Petit vont à l'école, ils vont presque au moins autant au catéchisme qu'à un cours d'instruction générale. Vous allez voir ça, à quel point cette école est encore une école avant tout chrétienne. Baptiste et Thomas, oui, je vous avais pas donné, je ne sais plus si je vous avais donné leur prénom. Alors, ils entrent dans la salle de classe qui est installée dans le logement même du maître, et il y a là, tenez-vous bien, une centaine de jeunes garçons qui se sont installés un peu partout sur des bancs de fortune. On les a répartis quand même par niveau autour de tables dont certaines sont, disons-le, branlantes. D'un signe autoritaire, le maître d'école, il s'appelle Monsieur Rémy, c'est un jeune maître, il est vêtu d'un surplis, il désigne leur place à Baptiste et Thomas, et quand le silence se fait plus ou moins, il entonne les prières du matin, rejoint par le cœur des élèves. Cette fois, ça y est, la journée d'école peut commencer. Vous voyez bien que l'école dont nous parlons là n'est pas cette école que nous connaissons en France depuis le milieu du 19e siècle, où l'État, avec d'ailleurs une ambition, une volonté quasiment sans exemple politique, a imposé l'enseignement public généralisé, avec une organisation, avec toute une pédagogie, avec des critères d'enseignement qui évidemment sont très très différents de ce que nous connaissons là sous l'Ancien Régime, dans une école qui est encore relativement, rudimentaire. Il faut vous dire que dans cette société de l'Ancien Régime, qui a été marquée par ce qu'on appelle la réforme catholique, la réaction de l'Église au protestantisme, il n'y a pas d'ambiguïté. La fonction de ces petites écoles, et c'est bien ainsi qu'on les conçoit, la fonction principale est une fonction religieuse. Ces écoles, d'ailleurs, ne sont pas promues par l'État, il faut bien le comprendre, mais l'essentiellement, en tout cas, par le clergé. Un clergé qui attend de cette école qu'elle transmette la foi catholique en profondeur, qu'elle la fasse entrer, si je puis dire, dans les communautés paroissiales. Cette priorité se ressent évidemment dans l'enseignement proposé et nos deux frangins, la Baptiste et Thomas, participent avec leurs camarades avant tout à une messe quotidienne et ensuite ils sont interrogés sur le sermon. Il y a toute une partie de la journée qui est consacrée à une catéchèse qui vise à un apprentissage fouillé du dogme catholique. Dans cette logique, note Bernard Gros-Perrin, le choix du maître est, je le cite, « toujours déterminé beaucoup plus par sa piété et la rectitude de ses mœurs que par sa capacité intellectuelle et pédagogique à donner l'instruction profane ». Alors même si souvent la vie des habitants compte évidemment, c'est le curé de la paroisse qui choisit le maître d'école et Olivier Magnan souligne, le maître, cet obscur travailleur du savoir, n'est-ce pas, quand il n'est pas dans les ordres, reste aux ordres. Ça paraît d'autant plus nécessaire que bien souvent le maître est laïque, mais qu'il n'en fait pas moins office d'assistant paroissial. Ce qui veut dire que dans le village des petits, Monsieur Rémy aide le curé, un curé exigeant. Il l'aide à préparer l'église pour les fêtes, il sonne l'angélus le matin, le midi, le soir. Il sert de secrétaire pour les registres paroissiaux. Donc vous voyez qu'il fait partie de la vie de l'église. Il est payé sur les revenus de la communauté villageoise grâce à ce qu'on appelle l'écolage. L'écolage, c'est une somme qui est versée par les parents d'élèves. Seulement, inutile de vous dire que les moyens de ce maître d'école sont extrêmement modestes. On dira plus tard que l'instituteur, le hussard noir de la République, etc., n'était peut-être pas assez payé pour son auguste fonction. Mais alors là, sous l'Ancien Régime, c'est encore plus modeste. Le rôle du maître n'est pas cependant que religieux, vous l'aurez bien compris. Il est là aussi pour apprendre à ses élèves à lire, à écrire, à compter. Contrairement aux pratiques scolaires actuelles, nous dit Bernard Gros-Perrin, ces apprentissages ne sont pas simultanés mais successifs. On commence, c'est dans l'ordre, hein, on commence par apprendre à lire. Quand on sait lire, eh bien, on prend la plume pour transcrire les choses, pour apprendre à écrire. Et puis quand on sait lire et écrire, on apprend à compter si on est allé jusque-là. Alors Monsieur Rémy, qui a été influencé par l'œuvre pédagogique de Jean-Baptiste de La Salle, vous savez, le fondateur de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, on était là en 1684, Monsieur Rémy organise son enseignement en fonction de cette fameuse progression. Voilà comment ça se passe très précisément. Pendant 2 mois, les nouveaux élèves apprennent à lire l'alphabet. Ensuite, pendant 6 mois, ils disent les syllabes. Et il y a encore 3 mois qui sont consacrés à épeler, à lire les mots. Et ensuite, on apprend les phrases, la ponctuation, etc. Les chiffres, vous voyez, n'arrivent qu'un peu plus tard. Et quand on sait, quand on maîtrise tout ça, eh bien, on est en mesure de lire, d'entrer, si je puis dire, dans les livres de piété. Le choix de monsieur Rémy est d'enseigner la lecture du français avant celle du latin, mais dites-vous que ce n'est pas partout le cas. Il y a de nombreuses écoles où on commence par apprendre le latin, ce qui pour les petits, évidemment pour les enfants, doit être un petit peu rebutant. Mais inutile de vous dire qu'à cette époque, la notion de rebut de l'écolier n'est pas du tout au nombre des préoccupations des maîtres. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors dans une école où beaucoup d'enfants s'absentent régulièrement ou sont retirés de l'école pour aider leurs parents, il y a une minorité d'élèves en vérité qui apprend l'écriture, l'arithmétique et qui va suffisamment loin dans le cursus scolaire. Je dirais que selon les études, et là ça me ramène moi à mes propres études, mais on estime que c'est environ un tiers des élèves qui parcourent le cursus scolaire complet. Ça veut dire que vous avez quand même 2/3 de la population qui apprend à déchiffrer, et encore, dans le meilleur des cas, vous comprenez pourquoi dans les veillées, dans les réunions villageoises, etc., il y a toujours ceux qui lisent pour les autres, parce que nombreux sont ceux qui ne savent tout simplement pas lire. Alors entre nos deux frères, entre Baptiste et Thomas, la différence est flagrante, parce que Baptiste, qui est l'aîné, lui ne rêve que de rejoindre son père dans les champs, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les études ne l'intéressent pas tellement. Alors que Thomas va gravir les niveaux avec une espèce de facilité, il est d'ailleurs remarqué très vite par le maître, qui lui donne des images pour le féliciter et qui va lui confier un certain nombre de responsabilités. On va lui en faire une sorte de répétiteur pour les élèves, pour leur apprendre à réciter les choses, etc. Son grand frère, pendant ce temps, fait les frais de la discipline, parce qu'inutile de vous dire que Monsieur Rémy n'est pas très doux et qu'il n'hésite pas à corriger les débordements. Il n'est pas rare que Baptiste, qui a tendance à dissiper ses camarades, reçoive des coups de baguette sur les doigts, ou le pire, qu'on le mette dans le coin, vous savez, avec ce qu'on appelait le bonnet d'âne. Il est sur le banc d'infamie des mauvais élèves. Les autres, d'ailleurs, ses camarades, dans ce cas-là, ont le droit de se moquer de lui et de le huer. Oh là là, que nous sommes loin de nos méthodes pédagogiques modernes.
Aujourd'hui, Franck Ferrand vous raconte l'histoire de l'école. Vous pouvez bien sûr réagir sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et depuis quelques jours, les étudiants, les écoliers français sont retournés sur les bancs de l'école. Et aujourd'hui, avec vous, nous, Franck, nous découvrons l'histoire de l'école.
Alors, disons-le, le parcours de Thomas n'est pas ordinaire. Et comme nous le disions pendant l'interruption avec Olivier Magnan, d'une façon générale, la famille dont je vous parle, cette famille berrichonne, les petits, n'est pas la famille lambda quand même. Ce sont vraiment des gros cultivateurs, parce que pour se permettre de se poser ces questions sur l'enseignement des enfants, il fallait déjà appartenir à un rang relativement important dans la population. Quand je dis relativement, en tout cas, c'était ce qu'on pourrait appeler de gros cultivateurs. Bernard Grosperrin le note par ailleurs, l'enseignement des petites écoles, je cite, « n'est pas comme notre enseignement primaire actuel, préparatoire à des stades ultérieurs de scolarité. Ce n'était que tout à fait exceptionnellement que certains des élèves poursuivaient des études de type secondaire. » Ça, c'est fondamental. Je dirais même que c'est peut-être la principale différence, et ça se prolongera, ça, quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que l'école n'était pas conçue comme une préparation à des études suivantes, elle était conçue comme un enseignement complet et qui devait vous donner, comme on dit un peu facilement, un bagage pour la vie. C'est-à-dire que l'enseignement était conçu comme une fin en soi immédiate et définitive et qu'on ne vous préparait pas à autre chose, à une étape ultérieure, on vous préparait simplement à ressortir de l'école en sachant davantage et en pouvant vous débrouiller dans l'existence. C'était ça en fait. Alors, avec le Thomas, il est suffisamment brillant pour avoir été repéré par le maître d'école, qui en a parlé bien sûr au curé du village, parce que là voilà la véritable autorité sous l'Ancien Régime. Non seulement Thomas est très vif d'esprit, etc., mais il est d'une excellente piété, fondamentale, toujours. Et puis n'oublions pas derrière la mère qui pousse, hein, cette ambition maternelle qui joue un rôle également dans la vocation ou dans la carrière de celui qui peut aspirer à intégrer autre chose qu'une petite école, en l'occurrence un des collèges jésuites tels qu'ils existent partout à l'époque dans les grandes villes du royaume. On n'est pas encore en 1760 quand Louis XV va mettre le haut là. Là on est dans les années, je vous ai dit, la fin des années 1720 maintenant. Alors il existe un véritable fossé entre la petite école et le collège, et bien sûr Madame Petit fait tout pour préparer son fils le mieux possible. Après encore une âpre négociation avec son mari, elle engage temporairement un maître particulier pour solidifier en quelque sorte l'instruction de base, écriture, arithmétique, etc. Il ne faut pas que son fils arrive au collège trop ignare ou trop mal dégrossi. À 11 ans, le voilà qui découvre, notre Thomas, ce monde nouveau dédié à la connaissance dont il ne pouvait jusque-là que rêver. Alors, le coût est relativement modeste. La famille Petit, tout de même, doit payer une petite pension urbaine, hein, bien entendu, parce qu'il faut bien qu'il vive quelque part, ce petit Thomas. Donc, il entre dans cette pension dont les élèves, essentiellement, sont externes pendant leur scolarité. Dans la classe de Thomas, une bonne centaine d'enfants et d'adolescents cohabitent. Ils ont des âges, ils ont des origines sociales différentes, même si on peut naturellement comprendre que les milieux favorisés, là encore, sont tout à fait surreprésentés. Alors, le cursus scolaire, cette fois, est organisé en classes. Il y a des classes dites de grammaire, des humanités, la rhétorique, etc. On grimpe, n'est-ce pas, en fonction, il y a 2 années de philosophie, et concrètement, tout ça se traduit au quotidien par une omniprésence du religieux, par des messes quotidiennes, par des exercices de piété, des retraites, etc. L'enseignement vise à apporter une culture spécifique. Il exige un excellent apprentissage du latin et pour cause, puisque la messe est entièrement en latin à l'époque. On lit des ouvrages de piété en latin. C'est la langue de l'enseignement. Le grec grec est appris plus tard et on insiste sur le développement de l'éloquence qui est la, en quelque sorte, la discipline maîtresse. La culture antique est au cœur de l'instruction, même si on est dans un contexte chrétien, et des auteurs comme Cicéron, Virgile, Démosthène, etc. sont évidemment surreprésentés dans l'enseignement. Les historiens Lebrun, Vénard et Quiénard l'expliquent. Le but premier de l'enseignement n'est donc pas de préparer à la vie professionnelle, mais de modeler, par le recours à une antiquité modelée à cette fin, un type d'homme et d'assurer à la société les cadres chrétiens dont elle a besoin. Vous voyez un peu dans quel carcan se trouve enserré le jeune élève. Jean de Vigry souligne que le pensionnaire au XVIIIe siècle est souvent un enfant coupé de sa famille. Et c'est vrai que Thomas ne rentre chez lui que 2 à 4 fois dans l'année. Généralement, d'ailleurs, c'est 2 fois parce qu'il faut organiser les voyages, etc. jusqu'à la ferme. C'est pas facile du tout. Et évidemment, pour compenser cet isolement, eh bien, on voit naître de solides amitiés. Et puis le travail est là, qui les tient littéralement constamment. C'est particulièrement le cas, peut-on penser, pour ceux qui espèrent une relative ascension sociale, ou du moins qui espèrent effectuer un métier différent de celui de leur père. N'oubliez pas que nous sommes dans cette société d'Ancien Régime où la reproduction professionnelle et sociale est absolument énorme. Généralement, vous ne vous posez pas de questions et vous effectuez le même métier que votre père. Parfois en progressant dans l'échelle du métier de la corporation, mais enfin vous êtes dans le même métier. Si vous voulez acquérir un autre savoir-faire, alors là, il faut vraiment vous donner corps et âme aux études. Thomas, pour sa part, va s'écarter du métier paternel puisqu'il voit sa vocation sacerdotale se confirmer au collège. On peut dire que sa vocation est de plus en plus claire. Il veut devenir prêtre, il sera même jésuite, comme ses enseignants passionnés, excellents, qui l'impressionnent tellement. Les bulletins que la fière Madame Petit reçoit et qui arguent des bons résultats et de l'excellence du comportement de son fils bien-aimé, ces bulletins lui donnent un légitime espoir. Alors, il faudra encore de longues années à Thomas, mais il y arrivera, il y parviendra, et il deviendra lui-même ce jésuite, fils de gros cultivateur, n'est-ce pas, et qui aura totalement, qui aura fait un bond, si je puis dire, dans l'échelle sociale. 1 sur 4, après tout, ça n'est pas si mal dans une société, celle de l'Ancien Régime, qu'on nous présente toujours tellement sclérosée et généralement inculte. J'espère vous avoir prouvé que, pour une partie non négligeable de la population, c'était une image fausse, et que non seulement on n'était pas si inculte que ça dans l'ancienne France, mais qu'au contraire, on donnait à l'enseignement, au savoir, à l'apprentissage dans tous les sens du terme, une importance déterminante. Bonjour Olivier Magnan.
Bonjour.
Merci.
Et en tout cas, vous m'avez fait réviser en cette rentrée.
C'est un comble.
C'est
l'élève minimum, qui fait réviser le professeur.
C'est minimum. Mais heureusement, vous m'avez laissé le droit aux antisèches, donc.
Dans un instant, avec vous, nous en venons à l'histoire des instituteurs, tels qu'on les appellera bientôt.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui sur Europe 1, jusqu'à 15h, nous découvrons l'histoire de l'école avec vous. Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Olivier Magnan, journaliste et écrivain chargé de cours à l'École supérieure de journalisme de Paris et auteur de La vraie histoire des instits, paru chez Chronique Édition.
Alors justement, les instits, les instituteurs, ce n'était pas le nom qu'ils portaient sous l'Ancien Régime, Olivier Magnan. On ne parlait pas encore d'instituteurs à l'époque.
On ne parlait pas d'instituteurs puisque c'est la Révolution qui voit instituer les instituteurs, qui est le mot latin instituteur qu'on utilisait d'ailleurs chez les aux Romains. Non, on les appelait un peu comme on pouvait, en réalité. Ça allait du recteur, un vieux mot qui disait bien ce qu'il voulait dire, le régent aussi, on avait droit au régent, c'était monsieur, c'était aussi les marques de respect.
On disait le maître aussi, tout simplement.
Et on disait le maître, on allait même jusqu'au latin, on disait monsieur le magistère.
Magistère.
Ou alors monsieur le curé, bien entendu.
Quand c'était le curé qui officiait,
absolument,
si je puis dire, ce qui était très fréquent. Dans les petits villages notamment, c'est souvent le curé qui faisait la classe.
Souvent, mais pas toujours.
Pas toujours.
On avait ce laïc qui était, comme vous le disiez tout à l'heure, complètement encadré par le curé du coin, mais qui n'appartenait pas à l'ordre.
Alors on a évidemment, on a très longtemps caricaturé cet enseignement de l'Ancien Régime en disant qu'il était nul, qu'il était totalement balbutiant, etc. À mesure qu'on fait des études, et je renvoie notamment à l'ouvrage de Roger Chartier, Dominique Julia et Marie-Madeleine Compère, l'éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, on se rend compte que l'enseignement et l'école étaient infiniment plus développés, plus présents que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Hein.
C'est vrai. Tout est relatif, tout
dépend
du point de vue duquel on se place. Il y avait, vous l'avez d'ailleurs souligné, Franck, il y avait quand même une très grande partie de la population qui échappait à ce cursus.
Oui, bien sûr. On avait plus modeste, disons les choses.
Jusqu'à une époque, presque à l'époque Ferry, on avait encore 28% d'illettrés, ce qui est relativement peu. Finalement.
Par rapport à d'autres pays.
Exactement.
Oui. Il y a aussi, et ça il ne faut pas le négliger, l'enseignement familial qui était important et qui notamment venait compenser pour les filles les déficiences du système.
Oui, c'est-à-dire que c'était un enseignement, vous l'avez dit également, c'était un enseignement essentiellement ménager.
Oui, voilà, bien sûr. Mais enfin, on leur apprenait à déchiffrer les mots, etc. Enfin, on essayait d'apprendre pour à peu près tout le monde. Je dis bien à peu près, vous dites un tiers à peu près demeurait analphabète, mais on essayait d'apprendre à lire, écrire et compter.
Il fallait lire le psautier.
Arrive la Révolution, et là, tout change. Car là, l'éducation devient un objectif politique.
Oui et non. C'est-à-dire que j'ai écrit dans ce livre que pour les enseignants proprement dit, au début, la Révolution est un peu un non-événement. Pourquoi ? Parce que, vous le savez très bien, nos révolutionnaires aiment beaucoup parler, échanger des idées, se bagarrer dans
l'éducation est au cœur de très nombreux débats à la Chambre.
Hein. Exactement. Alors, mais on en est au débat, par exemple.
À l'Assemblée, devrais-je dire.
Oui, exactement. Pour l'instant, rien ne change dans les faits, puisqu'il y a énormément de choses à gérer, bien entendu, y compris aux frontières. Et l'enseignement est pensé, il est discuté, il est débattu. J'avais noté que, par exemple, le fameux Talleyrand, qui n'est pas connu pour son caractère révolutionnaire absolu.
Et qui avait eu parmi les meilleurs précepteurs de France,
lui. Bien entendu, il était d'une grande éducation. Lui prônait devant l'Assemblée, conservons la formation de l'enseignant auprès des ecclésiastiques. La motion a été complètement ajournée. Condorcet. Alors lui était l'un des premiers à parler de laïcité, de gratuité. Il a même évoqué l'égalité entre la campagne et les villes. C'est le Pelletier de Saint-Fargeau, pardon, je me trompais de ligne. Il évoquait l'égalité des sexes et des âges. Donc en quelque sorte, il prenait de l'avance sur la formation continue. C'était quand même assez extraordinaire. Et le fameux le Pelletier de Saint-Fargeau devançait un peu l'appel. Lui, il prônait l'égalité des villes et des campagnes, l'enseignement obligatoire et la priorité de l'école élémentaire. Eh bien, toutes ces motions, tous ces débats ont été soit abandonnés, soit ajournés tout de suite au moment de la Révolution, 1789 et 1790.
Eugénie nous envoie une citation via Facebook. Elle nous dit « De toutes les institutions, la plus importante est l'institution publique, et l'instruction publique d'ailleurs, tout en dépend le présent et l'avenir. » Et l'auteur de cette formule, c'est un certain Napoléon Bonaparte.
Absolument.
Il va jouer un rôle, comme toujours.
Il va jouer même un rôle un peu anti-révolutionnaire, je dirais. La constituante de la Révolution, en tout cas, pour répondre à votre question initiale, elle laisse le maître d'école réellement sous la dépendance de l'Église. Dans les faits, cette césure qui est véritablement en filigrane. Bien entendu, dès 1789, la nation s'est accaparée les biens de l'Église. Mais dans le quotidien, le petit Thomas ou le petit Baptiste continue à fréquenter les écoles de l'Église.
Oui.
Et c'est à l'an 2, donc quelques temps plus tard et surtout en 1792, que les révolutionnaires créent un corps d'instituteurs qu'ils vont nommer instituteur. Et instituteur, ça veut dire celui qui institue et celui qui prône les valeurs du citoyen, de la patrie.
Alors, pendant, on veut en fait retirer la dimension religieuse de l'enseignement. Ça ne dure pas, ça n'est même pas possible dans un pays comme la France qui est entièrement fondé sur un enseignement qui jusqu'alors était religieux. Et évidemment, en 1808... Que fait l'empereur, parce que maintenant il est devenu empereur Napoléon, eh bien il rétablit l'enseignement religieux, c'est
absolument.
Ça
absolument, en tant que consul, il avait continué dans la voie de la Révolution à essayer de disqualifier les enseignants religieux, mais bien entendu, dès qu'il a les pleins pouvoirs, il rétablit les écoles religieuses, en donnant la priorité d'ailleurs, non pas aux primaires, que nous évoquons aujourd'hui, mais à ses fameux lycées
et, voilà.
et à son université.
La grande création
impériale.
De Napoléon, c'est le lycée, et puis c'est l'université impériale, bien sûr, mais c'est-à-dire ce sont les études secondaires et supérieures, en fait.
Et une chercheuse disait d'ailleurs que le primaire au temps de Napoléon a été complètement ignoré, oublié.
Alors que se passe-t-il après la chute de Napoléon, lorsque les frères de Louis XVI reviennent sur le trône, ce qu'on appelle la Restauration, qu'advient-il de l'école ? Vous parlez dans votre ouvrage d'une école mutualisée. De quoi s'agit-il en fait ?
Alors c'est un phénomène absolument extraordinaire. Oui, après Napoléon, bien entendu, Restauration, on est toujours et on est revenu dans la mouvance du clergé enseignant. Alors, l'école mutuelle qui apparaît petit à petit à ce moment-là, elle n'est pas nouvelle dès le XVIIIe siècle.
Mais ça existait sous Louis XV déjà.
Voilà, exactement. On avait compris que pour faire face, vous disiez que le petit régent, le recteur de village, a fait parfois affaire à une centaine d'enfants. Mais le problème reste le même. On a une affluence d'enfants. Comment faire face ? Eh bien, on crée les écoles mutuelles, un modèle que l'on a complètement oublié aujourd'hui, mais si on fait un peu d'uchronie, on pourrait s'imaginer que le modèle a perduré et qu'on serait toujours sous ce modèle-là. De quoi s'agit-il ? Eh bien, l'instituteur accueille dans de grandes salles, parfois même des granges entières ou des entrepôts, des centaines d'enfants. Tout ce que l'aménagement peut accueillir. Et que fait-il l'instituteur ? Ben, il coordonne et il surveille. Mais il surveille quoi ? Il surveille des enfants qui donnent des leçons aux enfants. C'est-à-dire que l'enfant qui sait déjà lire et écrire enseigne l'écriture et la lecture aux plus jeunes. Alors ça donne quelque chose d'absolument, c'est ce qu'on appelle l'enseignement mutualisé.
Ça doit être aussi la source de bien des erreurs et on doit apprendre beaucoup de bêtises de cette façon-là, j'imagine.
Oui et non. Tout ce que j'ai pu, lorsque j'ai enquêté un peu sur ces écoles mutuelles, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable efficacité. Mais dans un brouhaha extraordinaire, avec des petits chefs qui gourmandaient leur co-religionnaire, si j'ose dire. Mais tout ça, tout ce petit monde apprenait en même temps autour des tableaux. Il y avait des surveillants dans les rangées qui rappelaient à l'ordre les perturbateurs. Puis-je vous citer quelqu'un qui a beaucoup aimé l'école mutuelle pour en avoir fait un verre. C'est Victor Hugo, et il a dit quelque chose de tout à fait vrai sur le plan pédagogique. « J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne, et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne. » Voilà, c'était l'esprit de l'école mutuelle.
Oui, c'est surtout l'esprit un peu utopique de Victor Hugo, comme d'habitude. Nous parlions de lui, justement, il y a quelques jours. Alors, sous Louis-Philippe, il faut dire que l'école avance dans tous les pays à l'époque, en Allemagne, en Angleterre, etc. Et sous Louis-Philippe, le 28 juin 1833, M. Guizot, n'est-ce pas, fait passer sa célèbre loi qui impose à chaque commune de plus de 500 habitants, c'est-à-dire un nombre gigantesque de communes en France, d'ouvrir une école primaire. On y vient à l'enseignement obligatoire. On est sous la monarchie de Juillet, là. Hein.
Ajoutons deux garçons.
Deux garçons.
Bien entendu. C'est la loi, la fameuse loi de François Guizot, le même François Guizot qui sera le créateur de ce que j'ai appelé le SMIC de l'enseignant. C'est la première fois que ça arrive. Le pauvre instituteur qui, vous l'avez dit, Franck, était quand même réduit à la portion congrue, se voit doté d'un salaire de 200 francs de l'époque, ce qui le met quand même très nettement en dessous de l'ouvrier de base. Mais il est payé cette fois par la commune, beaucoup plus tard par l'État.
Alors, à partir de quand les filles auront-elles droit à des écoles dans les communes ?
Eh bien, c'est notre fameux Victor Duruy, mais alors beaucoup plus tard.
Oh là là, oui, là, c'est sous le Second Empire.
1867.
Oui, c'est ça.
Nous sommes déjà sous la Troisième République.
Sous le 67, sous le Second Empire, la fin du Second Empire, oui.
Absolument.
Sous Napoléon III, oui. Et l'impératrice Eugénie qui tenait beaucoup à ce que les filles apprennent.
Complètement, complètement. Et ce Victor Duruy, sur lequel j'espère nous aurons l'occasion de revenir.
On va y venir dans un instant.
Un bonhomme absolument extraordinaire a institué d'une façon légale l'école des filles, toujours dans ces fameuses communes de plus de 500 habitants.
Quel chemin parcouru depuis Charlemagne.
Sacré Charlemagne, c'était obligatoire aujourd'hui.
À France Gall, évidemment.
Effectivement, pour cette émission au cœur de l'histoire consacrée à l'histoire de l'école. Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Olivier Magnon, journaliste et écrivain chargé de cours à l'École supérieure de journalisme de Paris et auteur de La vraie histoire des instits paru chez Chronique Édition.
On peut dire Olivier Magnon, parce qu'on parle toujours de Jules Ferry, de la Troisième République, on va y venir dans un instant au hussard noir, cher à Peggy, mais ceux qui vont s'intéresser à l'école, la répandre, développer l'enseignement, gouvernement à très haute dose, etc., sont les ministres de Napoléon III, Falloux dans un premier temps, et puis surtout, bien sûr, alors on ne va pas revenir sur la loi Falloux et la question de l'enseignement privé, hein, mais Victor Duruy, dont vous nous parliez, qui est la, en quelque sorte la grande figure avant Jules Ferry.
Une figure étonnante. Simplement, par rapport à Falloux, à rappeler qu'il a été le ministre qui a institué l'école pour tous, dans toutes les communes, en ajoutant d'ailleurs, et pour les filles aussi, si la commune le peut.
Oui. Bon, voilà, enfin, c'était mieux que rien déjà.
C'était déjà un progrès. Mmh. Et c'est le même Falloux qui disait « Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église, l'Église à la tête de la civilisation ». Et on est toujours...
Ordre.
Exactement. On n'en est pas encore à la Troisième République et à Jules Ferry. Mais notre ami Victor Duruy, dont on le connaît
c'est
maintenant...
C'est le vôtre.
Oui, mais il est devenu mon ami quand j'ai découvert son œuvre. Exactement. Victor Duruy, on le connaît aujourd'hui carrément plus que par les noms des écoles.
Hein. Et oui, les lycées Victor Duruy, très célèbre, évidemment.
Et qui pourrait dire ce qu'il a fait? Eh bien, ce ministre de l'éducation de Napoléon III, d'ailleurs pérenne, hein, il l'a été de 1863 à 1869, c'est quand même un beau ministère. Un jeune avocat, passionné par l'enseignement. Il a accumulé une œuvre que je trouve extraordinaire. En tout cas, il a préparé complètement.
Il va créer le certificat d'études.
Il va préparer complètement l'ère Ferry. Parce que, au-delà du certificat d'études, ça n'a l'air de rien. Mais c'est lui qui a institué les récréations.
Par exemple.
Hein, c'est quand même important. C'est lui qui a institué le bulletin scolaire.
Et les manuels, ça apparaît quand, ce qu'on appelle les fameux manuels scolaires contrôlés par l'État, justement?
Ils sont très anciens. Alors là, si nous devons parler des premiers manuels scolaires, on peut faire vraiment un retour dans le passé très important, puisque on cite généralement en 1490, hein, on est vraiment très loin de Ferry et de Duruy, on cite les lettres de Pergame en latin, qui constituaient une sorte de recueil à partir duquel les jeunes élèves du temps apprenaient à lire. Et puis le manuel, il est arrivé quand même réellement après la Révolution, avec des initiatives. Talleyrand, d'ailleurs, dont on citait tout à l'heure, lui disait « je veux des livres scolaires précis, instructifs, etc. » Mais véritablement, le gros du livre scolaire, c'est évidemment avec Ferry qu'on assiste à son développement, avec des tirages absolument phénoménaux, des millions d'exemplaires, à commencer par celui qu'on ne peut pas rater, le voyage de ses deux enfants.
Bien sûr, oui, le tour de la France par deux enfants. Oui.
Exactement. De G. Bruno, qui était en fait Augustine Fouillet, une dame, et qui a connu un succès, qui connaît encore un succès d'édition réelle.
Et c'est-à-dire qu'Augustine Fouillet signait le tour de la France par deux enfants du pseudonyme de G. Bruno, c'est ça en fait.
Oui.
Alors,
De G. Bruno, puisqu'on ne sait jamais quel était le G. On faisait allusion à Giordano Bruno à l'époque.
Oui, alors on en était loin, évidemment. Le grand changement dans l'histoire scolaire, c'est évidemment l'avènement de la République après 1870. Le régime met, nous le savons, un certain temps à s'imposer. Et au début de la décennie 1880, lorsque la République est enfin ancrée solidement sur ses bases, elle va confier à Jules Ferry le soin de fabriquer, si je puis dire, une école à sa disposition.
On peut le dire comme ça, sachant que ce qu'on vient de dire sur Victor Duruy montre que les débuts de cette Troisième République, cette Troisième République assez conservatrice, avec un monsieur Thiers à sa tête, a quand même largement préparé le terrain de Ferry. Il n'est pas arrivé comme ça, but en blanc, en disant maintenant ce sera gratuité, obligation et laïcité. Mais c'est quand même lui, ce monsieur Ferry, avocat de profession, qui prend en main l'enseignement qu'on n'appelait pas l'éducation nationale, mais qui s'appelait l'instruction publique,
jusque très tard,
et qu'il va instituer les fameuses lois Ferry, la première en 1881, qui va instituer la gratuité généralisée, primaire, école normale, et ce qu'on appelait les asiles, les écoles maternelles que Pauline Kergomar va transformer en maternelles, justement. Mmh. Bon. Et en 1882, Jules Ferry va faire passer sa loi de l'enseignement obligatoire, et avec une petite nuance, c'est qu'il dit c'est l'instruction qui est obligatoire, non pas la scolarité. Ça veut dire que les enfants pouvaient être aussi instruits par leurs parents,
par leurs
proches.
Oui, bien sûr.
Oui, oui.
Dans certains milieux, ça a continué, ça jusque là encore, jusqu'à une époque assez récente. On peut parler de l'âge d'or de l'école communale à ce moment-là.
À ce moment-là, tout est mis en place, sachant que pour l'avocat Ferry, qui va se passionner aussi pour la colonisation, qui va aussi lui valoir sa chute plus tard, toute l'éducation, tout l'enseignement repose sur une vieille idée de revanche sur les Prussiens. L'enseignement est organisé autour de cette idée, de ce rêve de reprendre, de regagner l'honneur de la France à travers une victoire sur ces abominables Prussiens et Allemands qui nous ont battus en 1870. Et tout va dans ce sens. C'est-à-dire que l'enseignement Ferry a purement et simplement remplacé Dieu dans les écoles par le patriotisme.
Alors justement, Tad nous dit via Facebook que dans le village reconstitué à l'époque du Bourna, en Dordogne, il a été surpris de voir au mur de la salle de classe une carabine toute en bois. Jules Ferry avait, dit-il, rendu l'école gratuite et obligatoire après la défaite de la guerre de 70. Et parce que les troupes françaises parlaient autant de langues et de patois qu'il y avait de régions, il y avait donc dans les premiers programmes scolaires un enseignement militaire réservé aux garçons avec maniement d'une arme factice. On oublie facilement, je trouve, nous dit Tad, la raison stratégique de cette mise en place obligatoire de l'école.
Parfaitement raison. Ferry était obsédé par l'idée de cette revanche et il voulait faire passer un enseignement militarisé au sein de ses écoles.
Du reste, les punitions tombaient de rue, si je puis dire. Il y avait aussi des récompenses, hein, quand même, bien entendu.
Exactement.
On portait l'uniforme. Donc il y a bien cette notion, hein, quand même, d'encadrement, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y avait déjà des devoirs? C'est la dernière question que je vous poserai, Olivier Magnan, parce que je ne voudrais pas déborder trop. On faisait des devoirs à la maison, déjà? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le fléau des écoliers, les devoirs.
C'est une excellente dernière question, parce qu'en réalité, les devoirs, dès l'école de Ferry, ont été interdits.
Et voilà.
C'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui encore, ils sont interdits. Bien entendu, c'est quelque chose qui n'a jamais été mis en application. Donc on faisait quand même des devoirs avec les instituteurs de Jules Ferry, comme on en fait encore aujourd'hui.
Eh bien, nous finissons sur cette notation surprenante et quasi révolutionnaire. Merci beaucoup, Olivier Magnan.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre beau livre, hein, qui est un album avec beaucoup de photos, d'illustrations, etc. La vraie histoire des instits, c'est chez Chronique Édition d'Olivier Magnan. Merci.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Nicolas via Facebook qui s'interroge sur l'origine du système de notation.
Pain au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, pour vous, c'est une question de Nicolas via la page Facebook de Cœur de l'Histoire. Bonjour, je m'interroge sur l'apparition du système de notation à l'école. Je doute que cela ait toujours été ainsi. Pourriez-vous nous en parler sur Europe 1?
Et il a raison de douter, Nicolas, parce qu'en vérité, lorsqu'on étudie l'école de l'ancienne France, celle dont je vous parlais pour commencer cette émission, on se rend compte qu'il n'y avait, semble-t-il, pas d'évaluation, ou en tout cas pas d'évaluation chiffrée au départ, en tout cas, notamment au Moyen-Âge. Les élèves, nous dit Philippe Perrenou, qui est professeur en sciences de l'éducation, il nous dit les élèves se préoccupaient d'étudier plus que de réussir, les maîtres davantage d'enseigner que d'évaluer. Alors, quelle est la part de projection moderne et quelle est la part de réalité dans cet avis? Mais toujours est-il que on ne se souciait pas effectivement d'établir des classements. Le but était de transmettre un savoir essentiellement et de le transmettre de la manière la plus efficace possible. Vous savez que, encore une fois, cet enseignement était, je pense l'avoir bien expliqué pendant tout le cours de cette émission, était relativement aléatoire. Alors, c'est à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, avec le développement du collège jésuite, au milieu cette fois du siècle, que l'évaluation des élèves va apparaître. On est dans le cadre de cette réforme catholique dont nous parlions. Les jésuites entendent faire émerger une nouvelle élite intellectuelle et c'est là qu'Ignace de Loyola et ses disciples vont élaborer ce qu'on appelle le Ratio Studiorum, c'est-à-dire un guide qui organise les études autour de trois piliers, la discipline, la répétition et la concurrence entre les élèves. Il s'agit de favoriser une honnête émulation. Donc, on classe les élèves, on les hiérarchise, on récompense les meilleurs, on punit les plus mauvais. Bref, ça, c'est l'école telle que nous la connaissons, puisque les grands noms que j'ai cités tout à l'heure, les Guizot, les Duruy, les Ferry, etc., vont reprendre les habitudes jésuites. Et en 1890, la notation de 0 à 20, notation sur 20, devrais-je dire, est officialisée en France. c'était en 1890. Alors, dans les petites classes, on continuait à noter sur 10. Et vous voyez, chère Anissa, que la boucle est bouclée. Je vous disais tout à l'heure, pour commencer cette émission, ça vaut 10.